Les oubliés représentent un groupe de personnes marginalisées et maltraitées par les institutions de leur époque, souvent laissées sans dignité ni souvenir. Le cimetière des oubliés et le château de Cadillac sont des symboles de cette mémoire oubliée, rappelant les souffrances et l'injustice subies par ces personnes, hommes et femmes. Comment de redonner vie aujourd'hui à ces oubliés, leur accorder une place plus digne dans la société, faire connaître encore davantage leurs histoires singulières à travers l'histoire de Cadillac.
Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Madame Léonore Rosé, guide depuis plusieurs années. Bonjour Madame Rosé. Tout d'abord, merci d'être présente avec nous aujourd'hui au cimetière des oubliés. Parlez-nous de votre parcours.
Bonjour. J'arrivais dans le sud Gironde il y a 5-6 ans à peu près maintenant. Avant ça, j'ai pas mal bougé. Donc, j'ai un peu déracinée. C'est-à-dire que je suis de Touraine à l'origine, mais mes études m'ont emmenée du côté de Paris, en Espagne, en Touraine de nouveau. Et puis, les aléas de la vie ont fait que j'ai beaucoup bougé. Un peu partout en France, quasiment. Et donc, me voilà il y a 5-6 ans ici. Et voilà, mon parcours en soi, après, c'est des études d'histoire de l'art, des études dans le tourisme, et puis une licence de guide conférencier qui a permis de mettre tout ce que j'aimais en commun et surtout de pouvoir expliquer et partager avec des publics en essayant de mettre... de m'adapter à qui j'avais en face, que ce soit des enfants, que ce soit des gens d'un certain niveau culturel ou au contraire des gens qui sont juste là en vacances pour se faire plaisir. Moi, mon émotion est toujours la même quand je vais visiter quelque chose. Donc, j'ai toujours l'impression que c'est la première visite. Et voilà, et donc le cimetière, ça fait 3 ans peut-être maintenant que je le fais visiter, ouais.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à l'histoire et au patrimoine de Cadillac et quelles ont été vos motivations ?
Professionnellement, de toute façon, c'est des destinations qui sont demandées. Cadillac, ça fait partie des incontournables en fait quand on est guide en Gironde. Et puis, plus précisément, la période Covid a fait qu'on ne pouvait plus se déplacer. Et comme j'étais pas très loin de Cadillac, ça faisait partie de mon rayon où j'avais le droit de travailler. Donc, je me suis un peu plus intéressée à l'endroit. Le château en soi, c'est un apprentissage un peu compliqué avec ce château parce qu'il y a... Il y a une certaine lourdeur, il y a quelque chose de, oui, quand même de particulier. Il a fallu que j'apprenne à le connaître pour apprendre à le partager. Et voilà, son histoire est loin d'être simple. Pour ce qui est du cimetière, il y a eu toute cette rénovation qui a été faite à partir de 2018. Et quand il y a eu effectivement le vernissage, mais enfin l'ouverture au public de nouveau. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On en entend parler un petit peu, mais sans plus. Bon. Et je me suis penchée dessus parce que je trouvais ça hyper intéressant, tout simplement. Hein. Je ne fais pas visiter d'autres cimetières. J'ai des collègues qui font visiter à Bordeaux d'autres cimetières, des cimetières classiques, entre guillemets, avec des tombes célèbres et des destins fameux. Bon. Je trouve que c'est un peu facile, quelque part, de faire visiter la tombe de Rosa Bonheur. Bon, c'est pas que ce soit facile, mais ici, c'est un cimetière qui est bien différent et ça me touche d'une manière différente. Je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait eu des choses de mise en place pour réhabiliter un petit peu ces oubliés, justement. Je pense qu'on les a oubliés un peu trop longtemps.
Ces personnes, peut-être que c'était des gens pauvres, des gens qui n'avaient pas les moyens.
Je crois qu'on ne leur a pas laissé vraiment le choix. Le cimetière communal, c'est quelque chose. C'est une chose. C'est-à-dire que je pense que tous nos morts, à un moment donné, ils sont oubliés parce que les personnes qui sont en vie... Au bout d'un moment, eux-mêmes meurent et donc du coup, leur souvenir meurt avec quelque part. Et je pense qu'on oublie à cause de ça dans un cimetière quelconque. Hein. Et ici, c'est encore autre chose parce qu'on est dans une parcelle différente qui a été faite pour un, j'allais dire, un public. Voilà, pour des personnes qui sont mortes dans une institution, dans certaines conditions, certainement pas en étant hyper heureux, hein, avec des destins souvent brisés. Et je pense que c'est des gens qui n'ont pas toujours... Enfin, on n'a pas toujours su qu'ils étaient là. C'est-à-dire qu'à l'origine, avec tous les soldats qui sont arrivés à la Première Guerre mondiale, les familles n'ont pas eu, ne savent même pas où sont enterrés leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs. Ils n'ont pas su. On a eu beaucoup de tireurs sénégalais, on a eu beaucoup de gens qui venaient de partout dans le monde. Et je pense qu'ils ne sont pas forcément oubliés. Par contre, bah, on ne sait pas où ils sont. Et je pense que c'est ça qui participe aussi à l'oubli, c'est qu'il n'y a plus personne qui va venir du Sénégal pour... Bah pour honorer un arrière-grand-oncle, ou je ne sais pas, et je pense que ça participe à l'oubli. Ouais.
Nous sommes actuellement au cimetière des oubliés de la ville de Cadillac. C'est un lieu que vous faites régulièrement visiter dans le cadre de votre travail. Quelle est son histoire? Racontez-nous.
Je parlais à l'instant des soldats, c'est-à-dire qu'après la Première Guerre mondiale, l'hôpital de Cadillac reçoit de plus en plus de soldats. Dont certains ressortent et d'autres pas. Et il y a beaucoup de morts après la Première Guerre mondiale. Donc le cimetière, bon, ben, le cimetière communal commence à, je ne vais pas dire montrer ses limites, mais en tout cas, bon, il va falloir agrandir, quoi. Donc dans cette préoccupation-là, la mairie et l'hôpital, au début, c'est la mairie et l'hôpital qui vont acquérir cette parcelle. Et l'hôpital, en 1922, va racheter ce qu'avait mis la municipalité pour privatiser, si je puis dire, le terrain et que ne soient enterrées ici que les personnes décédées dans l'hôpital psychiatrique. Et en fait, on va avoir beaucoup de... Alors, pas de gueules cassées, pas forcément, en tout cas, mais ce qu'on appellera plus tard les mutilés du cerveau. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne le portent pas forcément physiquement. Cette blessure, elle n'est pas forcément physique, elle peut l'être aussi, hein. Mais elle est à l'intérieur, elle est à l'intérieur. Et à cette époque-là, malheureusement, c'est, j'allais dire, le parcours du combattant, mais c'est réellement ça, pour se faire reconnaître en tant qu'inapte, enfin, inapte à retourner au front, en tout cas, parce que il y a des... On essaye dans un premier temps, voilà, les gens qui vont présenter des premiers troubles où ben, on voit qu'il y a, voilà, il y a des chocs, parce que... Parce que c'est choquant, la guerre est très violente, c'est très choquant. On se prend des bombes sur la figure, on se prend des obus, on reçoit des morceaux de copains sur la tête, c'est une boucherie. Donc on peut comprendre à juste titre qu'on soit un peu perdu avec ça. Et dans un premier temps, ces gens un peu choqués, on va les mettre un peu à l'arrière du front, dans des établissements où on va leur donner des bains chauds, ils vont manger à leur faim, ils vont dormir correctement. On va petit à petit leur faire des activités sportives. On les voit, on a des photos où on les voit jouer à la pétanque et les choses vont mieux, ils sont mieux. Et on les renvoie au front. Et alors, quand ils reviennent, bah, ils ne vont pas mieux, en fait. Enfin, c'est des choses qui ne se guérissent pas avec un bain chaud et une bonne bouffe, quoi. Et là, il va falloir qu'ils démontrent, alors qu'ils ne sont pas capables de le faire, qu'ils ne peuvent pas y aller. Et certains vont être fusillés parce que ce sont des lâches, on les considère comme des lâches. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on va avoir ce parcours du combattant pour une espèce de reconnaissance. Alors, je ne dirais pas une reconnaissance MDPH, mais il y a une espèce de reconnaissance d'incapacité et de personnes qui sont parfois mutiques, parfois agitées de soubresauts, de cauchemars, de terreurs nocturnes, de troubles qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est le syndrome post-traumatique. Heureusement, depuis les années 90, avec les différentes guerres qu'il y a pu avoir, on sait ce que c'est. On n'en guérit pas pour autant, mais on sait un peu plus le prendre en charge. Donc cet hôpital va accueillir ses soldats. Et parmi ces soldats, la moitié meurt. Et de cette moitié, il n'y en a que la moitié qui va être récupérée par les familles. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui veulent récupérer leurs morts. Et puis, il y en a d'autres. Alors, j'imagine qu'il y en a d'autres qui habitent ici et qui, donc, bah, ne voient pas d'inconvénient à ce que, bah, ils soient enterrés là. Et puis, je pense qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas savoir, qui veulent pas, voilà, qui sont un peu bannis de leur famille parce que bah, on est à cette époque-là jamais très fiers d'avoir... D'avoir quelqu'un à l'hôpital psychiatrique, c'est quelque chose à l'époque, dans les années 30, 40, c'est lourd, c'est pas reconnu. Et ben voilà, on les laisse là, c'est très bien, ils sont loin de la famille et on les oublie. Parce que c'est peut-être plus facile comme ça.
Visiter un cimetière, ce n'est pas toujours facile. Quelles sont les personnes qui viennent ici généralement ? Est-ce que toutes les tranches d'âge sont intéressées, sensibilisées par le sujet?
Alors justement, la première fois que j'ai fait visiter le cimetière, c'était à des enfants qui avaient 8 ans à peu près, en moyenne d'âge, entre 6 et 10 ans, voilà. Parce que c'était des enfants du centre de loisirs de Cadillac. Et avec le directeur du centre à cette époque-là, on essayait de faire découvrir aux gamins leur propre village. Donc, sur d'autres villages aussi, on a fait des choses en micro-local. Et avec ces enfants-là, donc on est venus. Et évidemment, je n'ai pas pu aborder la chose de la même manière. Je leur ai montré des... Plutôt, bah tiens, qu'est-ce qu'on... On a préparé un peu le terrain, si je puis dire. Il y a eu un atelier. Qu'est-ce qu'on fait de nos morts aujourd'hui? Est-ce qu'on les enterre? Est-ce que bah, aujourd'hui, il y a l'incinération qui est de plus en plus commune? Mais ça n'était pas le cas dans les années 30, hein, loin de là. Et comment, à travers le monde, on enterre et on honore les morts? Donc là, je suis passée des pyramides de Khéops par les crémations vikings. Enfin, voilà, on a essayé de revisiter un peu le traitement des morts à travers les âges et à travers la géographie aussi. Et puis ensuite, on a joué, entre guillemets, hein. J'ai voulu les sensibiliser justement aux provenances de ces morts. C'est-à-dire que sur le mur qui est derrière nous, où on a on voit différents pays, il y a des provenances et je leur ai demandé combien il y en avait qui venaient de Côte d'Ivoire, par exemple, combien il y en avait qui venaient de tel... Il y avait un petit quiz, en fait, ils se baladaient, je leur ai montré un peu, je leur ai expliqué un peu l'histoire, mais vraiment très légèrement. Et puis ensuite, ça a été de se rendre compte que, tiens, les numéros qui sont sur les côtés, il y a des endroits où il en manque, ou alors on a des allées avec des bis. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a été réaménagé? Donc on a parlé de ça. On a parlé des arbres aussi, parce qu'il y avait plus d'arbres auparavant. Ça a été arraché, replanté. Bref, donc il y a aussi eu ça, l'aménagement finalement. Et puis il y a eu les matériaux. Il y a des croix en fer, il y a des croix, il y a des stèles en... des pierres tombales en pierre. Il y a une croix en bois qui est quelque part vers un des arbres, je ne sais plus exactement, mais il n'y en a qu'une seule. Donc, je leur ai fait chercher la croix en bois et relever le nom qu'il y avait dessus. Et c'est vrai qu'avec ces jeunes-là, on n'est pas allé dans la maison du fossoyeur, ou en tout cas, je n'avais pas allumé les écrans, parce qu'il y a des films qui passent et qui, pour moi, peuvent être choquants. Pour des tout-petits de 6-7 ans. En tout cas, moi, avec mon hypersensibilité, je trouvais que c'était un peu violent pour des gamins de cet âge-là. Par contre, il y a eu des lycéens qui, eux, ont... les guerres mondiales, ça fait partie de leur programme, même des troisièmes. Et là, on peut parler un petit peu plus... alors, on axe un peu sur la guerre et voilà, ces soldats, mais on peut aussi parler de l'hôpital psychiatrique, parce que c'est quelque chose, aujourd'hui, la parole s'est vachement libérée par rapport à ça, et ça ne les choque pas plus que ça, les gamins, et voilà, ça fait partie de leur programme, donc c'est bien aussi, je trouve, de montrer aux enfants que c'est pas que à Verdun, c'est pas que je sais pas où, la guerre, c'est partout, et c'est pas le fait de recevoir une bombe sur la figure, la suite, elle est là. Le traumatisme dans les populations, il est là. Les rationnements qui ont eu lieu à l'hôpital, les morts qui sont morts parce qu'ils avaient faim et non pas parce que ils étaient dans la rue. Enfin, il y a plein de choses, c'est important, je pense, à savoir. Et puis, quand c'est des adultes, on a des gens qui viennent, qui sont vraiment intéressés et qui souvent sont touchés de près ou de loin par soit un soldat dans la famille où on cultive la mémoire d'un ancien combattant, soit des gens qui ont travaillé en centre hospitalier, donc des soignants. Et puis, on a des gens qui ont des fragilités, qui ont fait un séjour peut-être parfois en clinique ou en hôpital. Donc, il y a des gens qui viennent là, ils ne viennent jamais pour rien. Et alors, je ne fais pas visiter vraiment d'Américains, de public étranger, mais en tout cas, quand on en parle aux Américains, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont un intérêt pour les guerres mondiales, hein, plus que pour la psychiatrie, mais pour les guerres. Ils ne les ont pas vécues de la même manière du tout, évidemment. Mais la France, eux, ils ont un lien particulier parce que dans la famille, les soldats, c'est des héros. C'est pas comme nous. C'est pas forcément comme nous. Et du coup, ils sont hyper intéressés quand on parle de ça. Moi, j'ai le temps. Enfin, voilà, malheureusement, ils ne viennent pas assez longtemps pour venir visiter. Mais quand je passe à côté en bus ou quand je passe tout le temps près de la porte là de, où il y a l'horloge, là, la porte de l'horloge, j'en parle. Je dis, vous voyez, ça c'est la rue qui est derrière, c'est la rue où il y a l'hôpital psychiatrique. Et je fais un lien, je raccroche tous les wagons sur l'histoire de Cadillac. Bon, on en parlera peut-être plus tard, mais en attendant, eux, ils sont très, très attentifs quand on parle de ce soldat, enfin de ces soldats et des traitements qu'ils ont pu connaître, avoir, qui sont ignobles. Et c'est les premiers à avoir reconnu le syndrome post-traumatique avec les guerres en Irak, tout ça. Donc, même la guerre du Golfe, enfin, voilà, ils ont eu quand même pas mal de guerres et ils savent, même la guerre du Vietnam. Enfin, voilà, c'est plus proche d'eux, ces guerres-là. Et ils n'ont pas du tout la même... ils ont un respect immense pour ces lieux-là. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils viennent sur les plages du débarquement en Normandie. Enfin, il y a une culture de la guerre qui est vraiment différente. Quand je travaillais en Alsace, c'était aussi la ligne Maginot. On allait voir ça et ils étaient hyper respectueux et parfois beaucoup plus que des gens, des Français finalement, quoi.
Vous faites également régulièrement la visite du château de Cadillac. Ce château a eu plusieurs vies. Pourriez-vous nous raconter l'époque où étaient détenues de nombreuses femmes?
Alors, l'histoire des femmes à Cadillac, c'est quelque chose... En fait, moi, je lis un petit peu tout. C'est-à-dire que, pour moi, il y a quatre vies dans ce château. Il y a la première dont on ne sait rien. C'est-à-dire qu'il y avait un premier château qui était l'héritage d'une femme qui s'appelait Marguerite de Foix-Candal. Cette Marguerite de Foix-Candal, elle hérite du château, ça fait partie de sa dot, et elle hérite du château parce que la seigneurie vient de sa famille, et on a une autre Marguerite dans la généalogie d'ailleurs, un peu plus tôt, au XVe siècle. Et cette famille, c'est la même qui a construit la Bastide. Donc pour moi, tout est lié dans le sens où voilà, on a les Marguerites du château, c'est-à-dire qu'il y a certainement une Marguerite qui a vu peut-être qui a connu un autre château que nous, on n'a plus sous les yeux. Marguerite de Foix-Candal est devenue duchesse d'Épernon. Bon, le duc d'Épernon a fait raser l'ancien château et construire le château qu'on connaît aujourd'hui. Mais sa femme ne l'a jamais connu parce qu'elle était déjà morte et enterrée. Donc moi, ce qui me fait toujours, je ne vais pas dire rire, mais ce qui me fait toujours un peu bizarre, c'est de présenter les appartements de la duchesse, alors que la duchesse n'a jamais vu. En tout cas, cette duchesse-là n'a jamais vu les appartements. Bon. Et puis, donc sa deuxième vie, pour moi, ça va être la vie qu'on lui connaît, le moment du faste. Voilà, du faste. Et ça s'arrête avec la Révolution, finalement. Alors bon, il y a plein de modifications qui se font, mais on passe là-dessus. Et il y a la Révolution, la famille s'exile. Quand ils reviennent, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les murs, quoi. C'est j'appelle ça, moi, la coquille vide. Et ils veulent s'en débarrasser. Et c'est l'État qui rachète. Donc l'État rachète, on est en 1818. Ils vont faire 4 ans de travaux pour aménager le château et pour... accueillir les futures résidentes qui sont des prisonnières à la base. On va avoir, pour moi, c'est la troisième vie du château. C'est le moment où ça n'est fréquenté que par des femmes, habité en tout cas que par des femmes. Et la quatrième vie, moi, je la fais partir après, c'est-à-dire quand tout ferme en 1952 et que ça ouvre au public. C'est sa vie actuelle. Bon, si on revient sur cette troisième vie, hein, ce qui est pour moi la troisième vie, il y a deux époques. Et il y a une grosse confusion chez les gens d'ailleurs, parce que pas plus tard que vendredi dernier, je faisais visiter la prison de La Réole. Et on me dit, oui, les prisonnières sont au cimetière des oubliés. Non, elles ne sont pas... Elles ont été oubliées peut-être, mais elles ne sont pas enterrées au cimetière des oubliés. Non, à moins qu'elles aient fait un séjour par l'hôpital psychiatrique et qu'elles soient mortes là-bas, il y en a peut-être, mais pas que je sache en tout cas. Donc voilà, il y a vraiment une grosse confusion. Ces femmes qui ont été enfermées à Cadillac, il y a eu une première époque. Les premières arrivent en 1822, ce sont des femmes adultes. Déjà, des prisonnières qui ont été jugées pour homicide volontaire ou involontaire, pour infanticide parfois, pour vol, pour escroquerie, pour de la prostitution illégale, parce qu'il y avait une prostitution tolérée, on va dire, et une autre illégale. Et elles vont se succéder comme ça, ces adultes, jusqu'en 1890. Donc on a à peu près 70 ans pendant lesquels on a des criminels, des délinquantes reconnues et jugées. Bon. Et à partir de 1890, on change le panneau de l'entrée et on va mettre école de préservation de jeunes filles. Et là, ce sont des mineurs qui arrivent. Ce sont des mineurs qui peuvent avoir, voilà, qui sont des ados en fait, des adolescentes, des jeunes adolescentes et qui vont rester là, si besoin, jusqu'à leur majorité qui est à l'époque 21 ans. Ça va durer jusqu'en 1952. Voilà. Et en tout, si on compte les deux périodes entre 1822 et 1952, donc on a 130 ans hein, entre les deux, on a 10 000 femmes en tout qui passent par Cadillac. Femmes et adolescentes, hein, les deux confondues. Au maximum de la population en même temps, on va avoir jusqu'à 400 femmes enfermées au château. Alors quand je dis enfermées, attention, parce que les criminels sont enfermés, les prisonnières, c'est une prison. Par contre, les filles qui arrivent plus tard, les jeunes, l'école de préservation de jeunes filles, selon, y en a qui n'étaient pas des délinquantes. Il y en a qui étaient des vagabondes, il y en a qui étaient des prostituées, effectivement. Il y en a qui simplement étaient là parce que leur famille les avait mises un petit peu là, parce que quand même, c'est une jeune fille qui rentre un peu trop tard le soir ou qui désobéit un petit peu trop et qu'on va vouloir serrer la vis, quoi. Donc, selon l'étiquette qu'on va leur coller, est-ce que ce sont des vagabondes, est-ce que ce sont des mauvaises filles, enfin en tout cas voilà, celles qui donnent un peu de fil à retordre à leurs parents, selon si ce sont des gamines qui ont été jugées, parce qu'il y en a qui ont été jugées et qui étaient des délinquantes, eh ben elles vont avoir des droits complètement différents. Il y en a qui peuvent sortir et revenir, qui vont travailler dans les vignes, dans les fermes et qui reviennent le soir. Et il y en a au contraire qui n'ont absolument pas le droit de sortir. Il y en a qu'on va considérer comme dangereuses, vicieuses, perverses. Et puis il y en a qui vont être là simplement parce que presque elles n'ont nulle part où aller. Cela dit, c'est pas une partie de plaisir. Les cinq premières années, je repasse à l'époque prison, les cinq premières années, on a quand même plus de 15% de mortalité. C'est énorme. C'est énorme. Et on a d'ailleurs, on a une morgue, on a une maternité aussi, parce que certaines des filles vont arriver dans un état que vous imaginez. On a évidemment une infirmerie, mais elles ne sont jamais là de gaieté de cœur, quoi qu'il en soit.
Une femme en particulier, Marguerite B., pupille de l'État, elle aussi détenue à la maison d'arrêt de Cadillac, a marqué tragiquement l'histoire de ce lieu. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ?
Alors, c'est la dernière des Marguerites. Marguerite B., c'est effectivement le destin tragique d'une jeune fille qui est pas bien, manifestement, parce que elle aussi, c'est une enfant de la guerre. Et en tant qu'enfant de la guerre, elle est très marquée. C'est une petite. Oui, une enfant à la base qui est née de deux instituteurs, un couple d'instituteurs. Le papa la quitte la maman assez rapidement et va faire sa vie ailleurs. Bon, et la maman reste toute seule avec sa fille. Donc on peut imaginer que c'est une institutrice, donc elle a quand même certainement un certain niveau, en tout cas de culture pour cette époque-là, mais voilà, on est pendant la Première Guerre mondiale. Sa maman, il va y avoir des bombardements dans le nord de la France, et sa maman perd ses jambes. Du coup, elle va être pendant plusieurs mois, enfin plusieurs semaines, plusieurs mois hospitalisée, etc., etc. Marguerite, à ce moment-là, va chez sa tante. Quand elle revient et qu'elle retrouve sa mère, c'est plus la même mère. Donc elle est fatalement choquée de voir une maman qui ne peut plus bouger, qui fait certainement ce qu'il peut, mais qui aime certainement sa fille, ça on n'en doute pas, mais qui n'est pas vraiment capable de l'élever. Et Marguerite est, on sent dans les lettres qu'elle a pu écrire qu'elle est en colère contre tout ça. Elle va assez rapidement, elle va s'en prendre à sa mère, elle va frapper sa mère. Elle s'en veut, donc elle tente une première fois de se suicider juste après avoir tapé sa mère, qui se retrouve à l'hôpital quand même. Hein. La maman se retrouve à l'hôpital. Hein. Et elle aussi, donc les deux sont à l'hôpital. Hein. La première parce qu'elle s'est fait taper par sa fille, et Marguerite parce que bah, elle est pas en forme, parce qu'elle aussi, je crois qu'à ce moment-là, elle ingère quelque chose, je ne sais plus exactement. Bon. Et donc, elle va être jugée quand même, parce que elle a tapé sa mère. Bon. Et donc, elle est jugée, et elle va... faire tout un parcours où elle va aller dans différentes institutions. Bon, elle atterrit à Cadillac. Sa mère va déménager, je crois, du côté de Prégnac. Donc, sa mère la suit hein, quand même. Et là, Marguerite, bah, elle donne du fil à retordre aussi. Parce que les témoignages qu'on en a, c'est que c'est une gamine qui est intelligente, qui est attachante, parce qu'elle peut être très, très fine, très... Elle peut avoir de très bons moments, comme elle peut avoir des moments terribles. Elle va avoir des crises où ça va pas du tout, où elle va, on sait qu'elle, elle se fait du mal. Elle va même à un moment donné atterrir à l'hôpital. Je pense que c'est Saint-André à cette époque-là où on la récupère. Elle s'est enfoncée des aiguilles dans les bras, des aiguilles à tricoter. On la traite de simulatrice. Elle est complètement ignorée. Elle est, je ne vais pas dire oubliée, parce qu'à cette époque-là, je pense que... Bon, les femmes, c'est facile. Hein. Les femmes, c'est hystérique. Voilà. C'est, fin, je veux dire, malheureusement, quand on lit un peu... Béatrice, c'est Kefel, hein, du coup, si je me souviens bien, qui a écrit un livre, Marguerite B, que je n'ai pas réussi à finir. C'est trop raide pour moi. Où on parle de la psychiatrie et comment les femmes sont vues en tant que criminelles, parce que la femme, naturellement, a des prédispositions pour être une criminelle, bien sûr. Donc ça, c'est assez terrible de voir ça. C'est hyper indigeste. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas digéré encore. Et Marguerite B, elle va finir par, a priori, mettre en scène sa mort, sauf que elle ne se loupe pas cette fois. Elle ne se loupe pas. Et ce qui est... effrayant, c'est quand on lit les lettres qu'elle a échangées avec la directrice de l'établissement, qui sont d'une... c'est d'une écriture pour une gamine qui a 19 ans à l'époque. C'est incroyable. Des lettres qui sont écrites avec une lucidité où elle parle, elle dit, mais vous voyez... j'aurais dû les amener, mais... Elle dit, vous voyez, madame, comprenez bien que je n'ai pas toujours été un monstre. Alors, elle parle de cette période où elle était chez sa tante. Elle a dit, c'est quand même bien peu dans une enfance que d'être heureuse de 5 à 7 ans, ou je ne sais plus exactement. Et elle a dit, vous voyez, ma mère est un monstre. C'est un monstre parce que les gamines de l'école se moquaient d'elle, parce que sa mère, elle était cul de jatte, on rigolait, quoi. Donc, elle a dit, c'est un fantôme. C'est pas ma mère, elle n'est plus là. Et c'est pour ça qu'elle la déteste. Et elle est consciente qu'elle devrait l'aimer. Elle devrait l'aimer, mais c'est perdu, quoi. Ça, c'est... Et elle dit elle-même que elle est peut-être un monstre, finalement, de ne pas aimer sa mère, mais c'est comme ça. Et elle dit qu'elle n'y peut rien, quoi. Et à côté de ça, elle lit avec cette directrice une relation très... Alors, mère-fille, je sais aussi, quand même, la directrice l'emmène en vacances avec elle. Et Marguerite trouve rien de mieux que de lui piquer de l'argent. Bon, voilà. Elle a certainement une pathologie aussi, hein, cette gamine. Bon, mais à l'époque, c'est pas détecté du tout de la même manière. C'est juste une gamine qui fait des siennes, entre guillemets, et qui finit par se suicider. Il y a une autre gamine derrière encore. Hein, je crois qu'elle se suicide, il me semble qu'on est en 51. Ou peut-être un peu plus tôt, je ne sais plus exactement, mais il y a une autre gamine encore derrière qui se suicide, et voilà, on décide que ça suffit. ça suffit. Ils sont plus à jour au niveau des méthodes, au niveau de la pédagogie, au niveau de la psychologie aussi, finalement. Même si, voilà, on sait que la directrice, à ce moment-là, elle essaye de faire quelque chose, elle essaye de comprendre, on essaye de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer chez ces filles pour qu'elles atterrissent là. C'est-à-dire qu'on se dit quand même, s'il y a de la délinquance, est-ce que c'est pas lié à quelque chose dans la famille, à l'environnement, à ce qu'elles ont pu subir? Donc il y a des interrogations, mais les réponses ne sont pas adéquates, malheureusement. Et Marguerite, elle en fait les frais comme beaucoup d'autres filles. Et pourtant, elle est intelligente, c'est-à-dire que... elle est loin, elle est ni déficiente, rien du tout. Au contraire, elle essaye à un moment donné de s'en sortir et dit ah bah aujourd'hui ça va mieux qu'hier et elle veut passer un diplôme. Enfin, à un moment donné, elle imagine l'avenir. Et puis finalement, il y a une de ces crises où voilà, elle a besoin d'une intention continuelle et elle l'a pas et ça va la perdre quelque part. Hein.
Comment la mémoire de cette femme prisonnière du château est-elle honorée aujourd'hui?
Alors, je pense qu'elle est honorée dans le sens où, depuis quelques années, le dernier étage où on a des petites chambres qui ressemblent à des cellules qu'on appelle les cages à poules, depuis que c'est ouvert, il y a beaucoup de gens qui viennent par curiosité. Voilà. Donc, je pense que si avant, on connaissait l'histoire, mais... on n'en parlait pas trop quand même. Hein. Y a des gens hein, qui se rappellent. Ah oui, je me rappelle quand les filles elles sortaient pour aller travailler, justement, voilà, cette période où elles peuvent sortir un peu dans les vignes, travailler et revenir. Les gens ont ça en mémoire, mais ils ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Il y a quelque chose de l'ordre du mystère, peut-être pas, mais en tout cas, on ne sait pas trop. Quoi. Et là, aujourd'hui, en réhabilitant ça, en faisant des expositions, il y a eu une exposition il y a peut-être 5 ans, je ne sais plus exactement, sur les mauvaises filles. En faisant venir aussi Bettina Reims, qui a fait cette exposition avec où elle a pris des photos des femmes dans les prisons, en expliquant le cheminement qu'elle a eu aussi, en disant voilà, ces femmes, moi je suis allée les rencontrer. En gros, elles avaient. Un vestiaire à disposition. Elles avaient le droit de s'exposer, de se montrer en photo comme elles désiraient le voir, donc maquillées ou pas, vêtues, hyper féminines ou au contraire pas du tout. Enfin voilà, cette exposition, moi, elle m'a vachement marquée parce que on voyait là des figures, des visages. On ne savait pas quel crime avait été commis. Et il y en a, on leur aurait donné le bon Dieu sans confession, alors que peut-être c'était les pires pervers, on n'en sait rien. Et à côté de ça, des filles qui auraient fait délit de sale gueule, hein, pardonnez-moi du terme, et qui pourtant peut-être ont juste piqué un poulet pour nourrir leur gamine ou leur gamin. Enfin, on ne savait pas. Et ça, c'était très perturbant. Et on a gardé un de ces portraits en haut, justement, donc au dernier étage. Et souvent, moi, c'est... On me pose la question, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce que c'est que cette photo? Et donc, ça permet voilà, d'en reparler et de dire que c'est un sujet qui intéresse aussi. Il y a un costume aussi, un uniforme, je devrais dire plutôt, qui est exposé. Il y a des photos, on en parle. Et alors, c'est tout bête, mais moi, depuis, je crois, 2020, j'avais commencé à faire c'est une thématique qui me touchait peut-être déjà, mais j'avais créé un circuit spécialement pour les journées de la femme. J'avais appelé ça Portrait de femme, et donc je parlais de toutes ces Marguerites, et je finissais, et c'est la première fois où j'allais jusqu'aux prisons, et où j'ai lu pour la première fois devant un public les lettres de Marguerite B, et on pleurait tous. Quasiment parce que c'est hyper émouvant, parce que les gens, on est à cet étage-là, c'est hyper froid dans tous les sens du terme. Enfin non, l'été il y fait très chaud parce qu'on est en hauteur, mais c'est le climat, il y a quelque chose, quoi. Et j'avais donné ça, cette visite, c'était au mois de mars avant le confinement, donc 8 mars, journée de la femme ou dans ces alentours-là, et donc il faisait encore froid au château. Et effectivement, c'est une visite qui a plu, la thématique a plu au château. Donc, on l'a refait. Je ne sais pas quand est la prochaine, mais il y en a une qui va venir, je crois, pendant les vacances de Toussaint. Il me semble que j'en fais une. Donc, deux fois dans l'année, on refait aussi cette thématique du portrait de femme. Et donc, je n'évoque pas que les prisonnières. Hein. Je traverse le temps. Et donc, ce qu'il y a de plus récent, c'est ces femmes-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se penche un peu dessus. Et puis, depuis peut-être 2-3 ans, ils font des thématiques sur la femme avec le cinéma luxe, où ils présentent des films justement sur l'enfermement, sur la femme, sur tout ça. Et avec une visite où quelqu'un du château va faire visiter et va parler un petit peu de comment ça se passait. Donc, pour moi, c'est comme ça qu'on les honore. C'est en parlant, c'est en essayant de faire comprendre aussi que il y a eu deux périodes, parce que les gens se rappellent de la période école de préservation et parlent de prison pourtant. Donc il y a une espèce de confusion comme ça. Donc il faut reparler de ces deux périodes distinctes. Enfin, pour moi, c'est important. Et il y a qu'en en parlant qu'on va pouvoir les faire les honorer. Alors elles sont peut-être pas toutes honorables pour autant. Hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, on ne peut pas les oublier. Voilà.
Quel lien peut-on faire, d'après vous, entre les oubliés du cimetière et ces anciennes détenues du château de Cadillac ?
Mais je pense que c'est celles qu'on veut oublier un peu. Que ce soit les personnes enterrées là ou les personnes ou les prisonnières, c'est il y a quelque chose de l'ordre du curieux, du bizarre. Parce que soit c'est des gens qui sont passés par l'hôpital psychiatrique. Mon Dieu, quelles étaient ces pathologies à travers le temps, on ne comprend pas du tout de la même manière. Aujourd'hui, on a un œil beaucoup plus ouvert, mais le regard mérite encore largement de s'ouvrir. Et puis les filles, les prisonnières, les criminelles ou les délinquantes et ces jeunes filles, qu'est-ce qu'elles ont fait pour arriver là ? C'est-à-dire que c'est la même chose, on arrive dans une institution, comment on arrive là, quel est ce parcours ? C'est un parcours qui doit faire peur. Se retrouver dans un hôpital psychiatrique et mourir dans un hôpital psychiatrique, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour qu'ils soient dans cette institution ? Et de la même manière, qu'est-ce qui se passe dans la tête des femmes qui vont commettre des crimes ou des délits ? Et ces filles qui sont de jeunes filles, comment ça se fait que jeunes filles, elles aient la mauvaise graine ? Je mets des guillemets, on ne les voit pas là, mais je mets des guillemets quand même. Donc ça fait toujours un peu peur parce que s'il y a bien des endroits qu'on a envie d'éviter dans la vie, c'est la prison et l'hôpital en général, mais l'hôpital psychiatrique encore plus parce que ce n'est pas visible. C'est là tout le souci des pathologies, du psychiatrique et du psychologique, c'est que quand on perd une jambe, ça se voit. Donc on est à l'hôpital normal entre guillemets et personne ne peut venir vous dire vous allez bien, même si la personne va très bien d'ailleurs, mais personne ne peut dire vous êtes indemne. Non, clairement. Alors que quelqu'un qui fait bonne figure. On ne peut pas voir les blessures qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça fait peur. Je pense qu'on veut oublier, ou en tout cas, on a passé pendant très longtemps et trop longtemps peut-être sous silence ce qui a fait que les gens sont arrivés là et que si aujourd'hui c'était à refaire, certainement que ces gens-là seraient pas en psychiatrie, ne seraient pas enfermés ou ne mourraient pas là-bas. Ou peut-être on ne les enfermerait pas parce qu'il y a d'autres choses à faire avant pour ces personnes-là. Donc, je pense que c'est ça. On essaye d'oublier que peut-être on les a mises là un peu rapidement.
Vous avez vécu une douloureuse expérience récemment avec un ami qui a basculé en psychiatrie alors que tout semblait aller bien dans sa vie. Une situation qui démontre que la santé mentale nous concerne tous. Pourriez-vous nous dire comment cela s'est passé et quel en est votre regard aujourd'hui ?
Oui, alors c'est effectivement un ami que je savais un peu particulier, singulier, mais des singularités, je remets des guillemets, acceptables, et qui a basculé effectivement parce que je pense qu'il a été mal pris en charge. Il a été médicamenté Et il y a eu des effets secondaires. Bon, ça n'allait pas du tout. Et il y a eu le confinement en plus par-dessus, donc ça n'a pas aidé parce qu'on ne trouve pas facilement d'aide à ce moment-là. Et effectivement, il a perdu contact avec la réalité d'une manière effrayante. Enfin, moi, il a commencé à parler. Ça devenait des monologues parce qu'on ne pouvait plus en placer une. Il parlait de choses vraiment très curieuses. Il se pensait capable de faire des choses incroyables. Et ce qui est terrible, c'est qu'il prenait des vidéos où il disait « Regardez, je fais des trucs incroyables !» Et quand on voyait les vidéos, il n'y avait rien d'incroyable du tout. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'une perception de la réalité qu'il avait perdue complètement et qu'on n'arrivait pas à la ramener. Enfin, à la ramener. On n'était pas armés pour ça. Et puis, il a représenté un danger au bout d'un moment. Il parlait... il s'entraînait pour un combat. Je veux dire, son corps a changé. Il s'est mis à se muscler à fond, à faire plein d'arts martiaux, des machins. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qui lui arrive? Et il a perdu contact avec nous aussi, son entourage, parce qu'on ne savait plus comment le toucher. On ne savait plus comment le récupérer. Il y a des moments, et ça c'était terrible, des moments où il avait cette espèce de lucidité d'envoyer un message en disant « Léonore, merci d'être encore là et me lâche pas. » Et puis, un quart d'heure après, c'était presque des insultes et c'était... On ne savait plus sur quel pied danser. Et on perdait... j'ai fait partie des dernières à être encore là, mais on perdait une énergie folle à essayer de lui dire qu'ça n'allait pas, qu'il fallait qu'il aille consulter, qu'il fallait faire quelque chose vraiment, qu'il demande de l'aide. Mais le problème, c'est que... il allait très bien. Enfin, il pensait aller très bien, en tout cas. Et ça a fini pendant plusieurs mois d'hospitalisation. Donc... à côté de ça, je me rends compte qu'il y a des prises en charge qui sont terribles parce que j'ai un autre ami, beaucoup plus récemment, qui s'est donné la mort sans qu'on sache d'où ça venait. Et en voyant sa famille, presque par hasard, il y a peut-être 3 semaines, 1 mois, j'ai appris qu'en fait, effectivement, il avait une très mauvaise prise en charge et que... peut-être là aussi, une médication avec une posologie où ça n'allait pas, ça ne convenait pas, les effets secondaires étaient terribles et la psy ne l'a pas vu. Et on se retrouve à se dire, il n'est plus là. Ah, on l'a vu il y a 6 mois, on a fait la fête ensemble, mais là, il n'est plus là. Donc, il y a vraiment quelque chose où, en fait, on se rend compte que les gens peuvent, entre guillemets, dégoupiller, j'appelle ça comme ça, parce que je ne sais pas comment dire autrement. Je crois qu'on dit décompenser ou quelque chose comme ça. Et on se dit, personne n'est à l'abri. Quand on est en burn-out, on bascule très vite aussi, je pense, dans un espèce de moment où on ne veut plus bouger. On ne peut plus, on ne veut plus. Et à ce moment-là, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard, c'est jamais trop tard, mais on a passé un cap. Et en fait, je pense que la limite est vraiment très, très ténue. Il suffit d'une goutte d'eau pour que les gens se perdent, en fait. Et je me rends compte que ça peut aller très vite. Et parfois, on a des garde-fous. Je pense qu'on a des gens qui sont un peu des garde-fous, des anges gardiens, on peut appeler ça comme on veut, et qui, si elles ne sont plus là, ces personnes-là aussi, si on les perd, on rebascule, on perd équilibre et on bascule très vite. Et il faut faire hyper gaffe, quoi. Ça va très, très vite et je pense qu'il ne faut surtout pas avoir peur. Alors, d'une part, de se protéger parce que... moi, j'ai pris cher, entre guillemets, avec cet ami là qui a fini interné pendant des mois. J'ai pris cher parce que j'ai donné beaucoup d'énergie là où, en fait, je ne pouvais rien faire. Donc, il faut, je pense, se rendre compte de ses propres limites et se protéger de quelque chose qui peut devenir hyper toxique parce qu'on n'endort plus la nuit, parce qu'on est hyper peiné, parce que... moi, j'ai fini par appeler la police. J'ai fini par appeler la police pour qu'ils aillent le chercher. Et on était plusieurs. On s'est dit, bon, là on est plusieurs. On appelle la police, on fait quelque chose. Il est dangereux pour lui, pour les autres. C'est pas possible. Et il m'en a pas voulu, fort heureusement. On a débriefé plusieurs mois après. Mais je pense qu'il faut, d'un côté, agir tant qu'il est temps, être attentif. Et en même temps, se préserver pour soi-même, pas basculer aussi. C'est hyper délicat et je pense qu'il y a beaucoup de psys qui sont mal formés, qui ne sont pas assez bien renseignés des troubles où les gens peut-être ne s'y intéressent pas parce qu'on ne peut pas s'intéresser à tout. Je pense que les médecins eux-mêmes, les médecins généralistes, ne connaissent pas aussi les pathologies qui peuvent être hyper insidieuses ou qui peuvent faire basculer et on se rend compte qu'il y a des erreurs médicales. Et ça, c'est une injustice terrible pour les gens qui la subissent et pour les gens qui sont autour et qui se disent « Mais vous vous rendez compte que là, si vous aviez fait attention, on n'en serait pas là. » Donc, c'est voilà, je pense qu'il faut être hyper, hyper vigilant quand quelqu'un est fragile. Quand on sait que quelqu'un est fragile, voilà, il faut trouver le juste milieu pour soi-même entre ce qu'on peut faire pour l'aider et ce qu'on doit faire pour se protéger. Et pouvoir revenir après. Alors, bon, moi, l'ami qui a mis fin à ses jours, je ne pourrais jamais lui dire que je suis désolée de ne pas avoir vu. L'autre ami, qui heureusement est sorti et qui va bien, et voilà, qui a repris sa vie, ça a eu des conséquences terribles au niveau professionnel pour lui, malheureusement. Et c'est très compliqué pour lui de se racheter, entre guillemets, dans la société et dans le pro. Heureusement, on a un groupe d'amis qui, voilà, on a essayé de l'aider quand il a repris pied. Maintenant, il s'en sort, c'est bien, mais voilà, on essaie de faire attention quand même, de près ou de loin, un petit coup de fil, tiens, est-ce que t'es dispo, machin. Bon, voilà, on essaie de se voir de temps en temps et on garde voilà les oreilles ouvertes, le nez, c'est marrant, hein, le premier geste que j'ai fait là, c'est de sentir les choses et puis d'alerter si besoin, aussi de se dire qu'est-ce qu'on peut alerter s'il y a besoin. Et ça peut être aussi des personnes qui vont être sous tutelle, sous curatelle, et est-ce qu'on connaît les curateurs, les tuteurs et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, et ça va être d'aller vers cette personne ressource aussi, quoi, quand ils sont bienveillants, parce que malheureusement j'ai l'impression que il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là. Je sais pas, mais j'ai l'impression que il y a du boulot d'éducation, je sais pas si je peux dire ça comme ça, à faire à ce niveau-là, quoi.
D'après votre expérience personnelle, comment ne pas oublier les personnes marginalisées, maltraitées de notre époque contemporaine ? Comment faire une société plus inclusive ?
Alors, je vais dire un truc assez... peut-être qui va paraître terrible, mais je pense qu'il faut banaliser dans le sens où... je pense que si ces gens sont oubliés, c'est parce que on les a mis en marge, on les a mis dans des institutions et on a fermé les yeux, peut-être. Voilà. Si on parle de ça, je pense que la première chose, c'est la parole. De banaliser, je ne sais pas, un enfant maltraité. Aujourd'hui, je pense que tous, on a subi une maltraitance, quelle qu'elle soit, parce que nos parents ne savaient pas que c'était maltraitant. Voilà, donc je pense que commencer par parler de ça à n'importe qui, à dire, bah, tiens, moi, tu sais, quand j'étais gamine, un jour, je ne sais pas, même à l'école, vous voyez, par exemple, c'est tout bête, mais j'avais un maître d'école qui nous faisait ramasser ses mouchoirs sales et qui nous marchait sur le pied volontairement. C'est-à-dire qu'il nous regardait, on était en rang, je m'en rappelle très bien, et il nous marchait sur les pieds, quoi, dans tous les sens du terme. Et il était effrayant, il m'effrayait, moi, ce bonhomme. Bon, je pense que, voilà, commencer à parler de ces mauvais traitements-là, et en plus, moi, j'ai su par la suite qu'il avait été maltraitant à bien d'autres égards avec des copines, et j'en suis mais complètement écœurée, ça allait beaucoup plus loin que ça, en réalité. Moi, je suis presque contente de n'avoir fait que ramasser ses mouchoirs sales, même s'il y avait quelque chose d'hyper humiliant à ça. Et les humiliations, ça fait partie des mauvais traitements. Bon, voilà, moi je me disais juste, bon, bah, c'est notre punition parce qu'on a une mauvaise note ou parce qu'on a, on a parlé trop fort dans le couloir. Bon, c'était on a désobéi, donc on est puni. Je trouvais ça très curieux comme manière de punir, mais enfin, bon, voilà, c'était comme ça. Et puis, y a d'autres mauvais traitements aussi qui éclatent, des abus sexuels qui éclatent dans les villages. Moi, il y a eu une histoire comme ça dans mon village où il y a un parent d'un camarade de classe qui a fini à la prison, je ne sais plus laquelle. Et on s'est dit, mon Dieu, mais c'est pour ça que ses enfants étaient complètement... Il avait 3 enfants, donc 2 filles, 1 garçon. Et quand on a su, bah, on a beaucoup mieux compris pourquoi une des filles qui avait 1 an de plus que moi, elle était dans ma classe, elle avait redoublé parce que bah, elle tremblait parfois, elle avait du mal à trouver ses mots, elle bégayait, parfois elle se faisait pipi dessus, des choses comme ça. Et bah, nous, en tant que camarades de classe, bon, on trouvait ça un peu bizarre, quoi, mais ça n'allait pas plus loin. Et les profs ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir, je ne sais pas, en fait, on n'en sait rien, mais à un moment donné, ça a fini par éclater parce que quand les gamins sont devenus ados, ils ont eu des copains, des copines qui venaient dormir à la maison et on s'est rendu compte que... Et moi, j'ai fait partie de cela, je m'en suis rendu compte après, j'ai dit, oh purée, mais j'ai dormi dans le jardin de ces gamins et effectivement, à un moment donné, il s'est passé un truc hyper bizarre. Et je pense que, voilà, je pense que si on commençait à parler des choses qu'on trouve, bon, un peu bizarres, ben, on se dit que ça arrive partout, tout le temps, et que fatalement, il y a des victimes. Et que ces victimes, ben, c'est des gens qui vont être fragilisés et qui vont soit être pris en charge pour, et prêts à affronter la vie avec leur fragilité, qui restera plus ou moins toujours, ou alors on a des gamins qui s'effondrent complètement, qui deviennent voilà, très, très fragiles et qui finissent en prison, en... Je mets des guillemets encore, je sais que le terme n'est plus adapté, mais en asile, parce qu'on n'a pas su déceler. Donc, parlons-en, quoi. Parlons-en, banalisons ça, parce qu'on a tous, quelque chose, on a tous pris une baffe qui n'était pas justifiée, on a tous eu quelqu'un de chelou autour de nous, qui agissait un peu bizarrement, on a tous connu un camarade de classe à un moment donné qui tournait pas rond et que bah, on savait pas pourquoi. On a tous un collègue, un ami qui, arrivé à un certain âge, bon, j'ai qu'une 40aine d'années, mais on se rend compte qu'on en a qui, moi j'ai envie de dire qui tombe, sur le champ d'honneur un petit peu, c'est-à-dire que, bah, voilà, il y a plus on avance dans l'âge, plus on voit les défenses qui tombent aussi, et nos propres défenses qui tombent à un moment donné parce qu'on a envie de les faire tomber aussi et de dire, bah, en fait, tiens, tu sais quoi, moi aussi j'ai mes trucs, hein, j'ai mes fantômes, j'ai mes squelettes dans le placard, comme on dit, je crois qu'on en est tous là. On a tous ça quelque part en nous, et soit c'est pris en charge, soit ça l'est pas. Mais on peut pas aujourd'hui, on doit pas oublier ça parce qu'on l'a tous. Donc, on n'arrivera jamais à guérir une société si on n'arrive pas à ouvrir les yeux sur ce qui s'y passe. Donc, je pense que voilà, ça commence par la parole et par la réception du message, parce qu'il y en a qui ne veulent pas recevoir. Et s'ils ne veulent pas recevoir, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans leur placard aussi. Et s'ils en parlaient, peut-être que ça, voilà, la défense tomberait et on serait tous sur un pied d'égalité, quoi.
Merci, Madame Rezé, de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Finalement, peu importe qui nous sommes et d'où l'on vient, puissent nos expériences et nos regards faire évoluer les mentalités.
Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord et je salue cette initiative vraiment dans laquelle je suis rentrée facilement parce que je me sentais aussi concernée et parce que je trouve qu'il y a des injustices criantes et que bah, si on n'en parle pas, ça ne changera pas. Donc parlons-en.